Et effectivement, au téléphone ce soir, l'héritage de Napoléon, dont on célèbre cette semaine les 250 ans de la naissance. Napoléon, dont on dit qu'il est devenu le personnage historique le plus consulté sur Google en France, après le Christ, rien que ça. Alors bien sûr, le code civil, l'affirmation des cantons, des départements, les préfectures aussi avec leur système centralisé, la Banque de France, sans oublier une forme moderne du baccalauréat. On doit encore à Napoléon quelques breloques, comme la Légion d'honneur. On ajoutera à cette longue liste quelques monuments, l'Arc de Triomphe, le Palais Brongniart ou l'église de la Madeleine à Paris, sans oublier les batailles d'Europe et leurs nombreux morts, la campagne d'Égypte aussi. Héritage politique enfin, et d'ailleurs, que signifie aujourd'hui l'expression « droite bonapartiste » ? Enfin, une question qui va souligner notre débat, le mythe napoléonien est-il toujours d'actualité ?
À la question « le passage météorique de Napoléon Bonaparte » Ces 15 ans du consulat et de l'Empire ont-ils été un bien ou un mal pour la France? Je réponds un mal.
Bref, peut-on encore se disputer autour du cas Napoléon? Vos témoignages, vos questions ce soir au 01 45 24 7000 ou bien sur le site de France Inter à l'onglet Réagir.
Éric Delvaux. Le téléphone sonne.
Avec une première question au standard. Philippe, bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Vous êtes en ligne de Bois-Bernard, c'est dans le Pas-de-Calais. Quelle est votre question ?
Voilà. Les ouvrages grand public évoquent très souvent les victoires napoléoniennes et le génie militaire de Napoléon. Est-ce que vous pourriez donner simplement le nombre de morts qu'ont coûté les guerres du consulat et du Premier Empire entre 1800 et 1815 ?
Eh bien, pour répondre à votre question ce soir et aux questions des auditeurs, deux invités, Patrice, deux historiens et spécialistes de Napoléon, Patrice Guénifet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien donc et directeur d'études à l'EHSS, l'école des hautes études des sciences sociales. Et puis en duplex de Tours, dans les locaux de France Bleu Touraine, et je remercie l'équipe de France Bleu Touraine, un autre historien, bonsoir, Xavier Mauduit.
Bonsoir Éric Delvaux.
Que les auditeurs, Xavier Mauduit, que les auditeurs de France Inter connaissent bien, et je précise d'ailleurs que vous avez chacun, tous les deux historiens, en tant qu'historien, rédigé de nombreux livres sur et autour de Napoléon. Alors, notre premier auditeur, Philippe, a parlé de génie militaire, génial et sanguinaire. Est-ce que, à vos yeux, ça résume bien l'ambiguïté du personnage, Patrice Guénifet ?
La guerre, par définition, fait des victimes. Alors là, en l'occurrence, il y en a eu beaucoup, 1,5 million de morts.
C'était la question de l'auditeur, combien de morts ? Un million pour les campagnes européennes.
Hein. 1,5 million, en ajoutant les guerres de la Révolution. On ne peut pas distinguer, séparer, faire le tri entre toutes ces campagnes. Disons qu'en 20 ans, 22 ans de guerre, il y aura eu 1,5 million de morts. Ce qui est bien sûr considérable, mais ça correspond aussi à des guerres qui ont vu le matériel militaire progresser, par exemple l'artillerie, et donc le nombre de victimes augmenter. Mais en même temps, quand même, c'est moins terrible que la guerre d'Ancien Régime. Vous savez, les armées étaient face à face et se mitraillaient à bout portant.
Alors moi, je croyais qu'on n'avait pas de chiffres précis sur le nombre de victimes.
Ce sont des estimations.
Xavier Mauduit, on parle d'estimation également quand on parle des guerres napoléoniennes et non pas de chiffres précis.
Oui, on parle d'estimation. On peut estimer à 1 million, à 1,5 million, un peu plus, un peu moins. C'est vrai que le bilan comptable des morts est toujours en discussion. Mais comme le dit Patrice Guénifet, les guerres napoléoniennes s'inscrivent dans un contexte beaucoup plus large. On a parlé, les historiens ont parlé de la seconde guerre de 100 ans qui oppose la France à l'Angleterre. Et c'est vrai que cette seconde guerre de 100 ans inclut les guerres de la Révolution. Napoléon, en fait, reprend des guerres qui existaient déjà auparavant. Donc, où commence le bilan? Où s'arrête-t-il? En tout cas, évidemment, comme l'a dit Patrice Guénifet, la guerre, ça fait des morts.
On retourne au standard avec Pierre, 01 45 24 7000. Pierre, vous nous appelez de Lyon. Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir. Alors le thème, c'est donc le mythe de Napoléon. Bien moi, ce mythe, je pense qu'il faut le combattre et qu'il faut être dans le réel de l'histoire. Je crois qu'on ne peut pas oublier que Bonaparte a fait un coup d'État militaire en 1799. Je crois qu'on ne peut pas oublier qu'il met en place une dictature, une vraie dictature, où on a une presse qui est quand même contrôlé, qui est censuré par son ministre Fouché. On a beaucoup d'opposants politiques qui sont emprisonnés, voire assassinés. On a un pays qui est espionné, mais espionné à un point dont on ne soupçonne pas. C'est la Stasi avant l'heure, et je maintiens ces mots. Où on a quand même quelqu'un qui fait emprisonner le pape. Napoléon Bonaparte a fait emprisonner le pape. Où on a quelqu'un surtout, quelque chose qui me scandalise, qui rétablit l'esclavage dans les colonies. C'est Robespierre qui supprime l'esclavage en 1794, c'est Napoléon Bonaparte qui le rétablit en 1802. Napoléon Bonaparte est un esclavagiste, il faut le dire.
Alors...
Et c'est normal, il est le représentant de la bourgeoisie de cette époque. Et enfin, quand même, comment oublier dans quel état il laisse la France en 1815, une France qui est meurtrie démographiquement, humainement, et qui perd aussi tout son empire colonial, son premier empire, elle le perd quasi totalement. Donc moi j'ai du mal à comprendre ce mythe qui glorifie, et je dirais pour terminer, qui aujourd'hui, qui vraiment est en train donc de glorifier ce Napoléon,
alors,
à part des gens
merci,
comme Éric Zemmour et Max Gallo, des réacs de droite, il faut le dire.
Alors Pierre, merci pour ce portrait à charge de Napoléon. On va essayer de reprendre les choses dans l'ordre. Xavier Mauduit, résumé, Napoléon a un rôle de dictateur. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réducteur? Ou est-ce que c'est la réalité donc?
C'est la réalité. Napoléon est un dictateur. Effectivement, tout ce qui vient d'être dit là est juste, mais c'est le souci des études faites autour d'un personnage aussi clivant. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y avait les favorables à Napoléon et les anti-Napoléon. Un exemple, on vient de l'avoir à l'instant à l'antenne. Aujourd'hui, les historiens étudient l'épisode napoléonien comme il doit être étudié. L'historien n'est pas là pour être juge. Mais effectivement, ce qui a été dit est vrai, mais il faut replacer les choses dans le contexte. Le cas de l'esclavage est drôlement intéressant pour cela. Pendant longtemps, la question de l'esclavage rétabli par Napoléon n'a pas du tout été un sujet qui intéressait les gens. C'est quelque chose qui apparaît tardivement. Quand on a commencé déjà à étudier Napoléon sérieusement, c'est dans les années, allez, on va dire dans les années 1960. Je vous dis bien 1960, c'était pour le bicentenaire de la naissance. Aujourd'hui, on est au 250e anniversaire de la naissance. C'est à ce moment-là qu'on a commencé sérieusement à l'université à étudier Napoléon. Mais des questions qui ne se posaient pas se posent aujourd'hui. En gros, ce mythe Napoléon ne parle pas du passé, il parle de ce que nous sommes aujourd'hui et de nos préoccupations du moment.
Alors pour les cérémonies, vous parliez des cérémonies pour le bicentenaire il y a 50 ans. Georges Pompidou s'était déplacé, je crois, à Ajaccio pour célébrer le phénomène et le mythe napoléonien. Aujourd'hui, qui en politique pour célébrer Napoléon à Ajaccio? Je crois que cette semaine, il y aura Gérard Larcher. Alors ce n'est pas rien, hein, c'est le président du Sénat, c'est la deuxième personnalité de la République et de l'État en tout cas. Il y a un déni de mémoriel pour les 250 ans de Napoléon, vous le sentez, Patrice Guénifet?
Oui, d'abord un 250e anniversaire.
Ça sonne moins que 200 ans.
Ça sonne moins que 200 ans ou 300 ans. L'année prochaine, on va avoir une salve de commémoration à propos de De Gaulle. Dans un an et demi, on aura le 200e anniversaire de la mort de Napoléon, qui sera la dernière grande commémoration. Donc il est normal que ce soit un peu en demi-teinte. De plus, les dernières commémorations sont passées un peu à l'as, si j'ose dire. Celle de 2004... parce qu'elle a été parasitée par les débats sur le rétablissement précisément de l'esclavage, ce qui fait que nos gouvernants, n'écoutant que leur courage, ont renoncé à célébrer Austerlitz l'année suivante. Voilà, se disant, après tout ça ne mérite pas qu'on se provoque des embarras, donc tout ça est passé un peu sous silence. Donc là, on va pas remettre ça, je pense que, il n'y a pas vraiment de célébration, on envoie l'archer, ça coûte rien, il va faire un petit discours, il n'est pas le mieux capable d'incarner le souvenir de Napoléon, mais peu importe. Voilà, parce que, aussi, le bilan aujourd'hui est plus controversé qu'il n'était encore en 1969. Encore que Pompidou a fait un discours tout à fait à minima. Pompidou n'avait absolument aucune sympathie pour
les mêmes raisons qu'aujourd'hui.
pour le personnage de Napoléon, qu'il jugeait bien sûr un dictateur, antilibéral, etc.
Quand Napoléon dit « je suis empereur », car c'est le titre qui est plus grand que le roi, c'est tout de même un peu la folie des grandeurs chez Napoléon, Xavier Mauduit. Ça rappelle même le sacre démesuré dont s'est inspiré Bokassa ensuite en Centrafrique dans la fin des années 70.
Oui, c'est vrai, le sacre de Napoléon est un moment de notre histoire, un moment qui fait partie de notre patrimoine. Il y a une démesure, mais une démesure que l'on doit mettre dans un contexte. Nous sommes après la Révolution française, qui elle-même est un moment de démesure. Et voyez, dans ce moment-là, cette focalisation de tous les partis politiques, aujourd'hui nous sommes en train de nous opposer entre républicains, ce qui est très légitime, mais nous sommes à un moment où ce sont des royalistes qui s'opposent à des républicains, et tout ça se fait dans le sang. Et c'est vrai que la pacification apportée par Napoléon, notamment en Vendée, c'est la fin de la guerre civile, c'est la fin de la guerre de Vendée, est un moment fort. Donc, aujourd'hui, nous regardons ça avec beaucoup de recul, mais dans le bilan très négatif, il y a aussi des éléments positifs, ce qui permet à l'historien de dresser un tableau de cette période incroyable, la période a été incroyable, tout va très très vite, de la Révolution et l'Empire qui suit, et c'est ce qui crée ce mythe. Le mythe est là, on ne peut pas le nier, il y a des gens qui sont fascinés par Napoléon, et vous, Éric Delvaux, vous l'avez bien dit au début de cette émission, la Légion d'honneur, le Code civil, tant de la Banque de France, le franc, enfin on n'arrêterait pas d'évoquer tous les héritages napoléoniens. Donc le mythe est là et il mérite d'être étudié.
Et bien sûr, le mythe 01 45 24 7000, le mythe Napoléon. Napoléon, avec une nouvelle question de Lilou And ou Lilou Andes, je prononce bien votre prénom.
Lilou dans les Landes.
Ah pardon, bon, écoutez, Lilou alors. Merci, bonjour
alors moi,
Lilou, quelle est votre question?
Dit à votre, la personne que j'ai eue au téléphone, que moi je trouvais que Napoléon était un homme formidable et que s'il n'avait pas eu autant d'ambition, ça a provoqué sa chute, bien sûr. Mais bien sûr, il y a eu des guerres, il y a eu des morts, mais on voit bien que ça a continué, les guerres, les morts. 14, 18 et 39-45, ça n'a pas été non plus sans aucun mort, loin de là, plus toutes les atrocités. Bon, Napoléon, il combattait, il savait donner de le... motiver ses soldats et il donnait l'exemple au combat. C'était pas quelqu'un qui était en dernière ligne. Donc, pour moi, c'est quelqu'un de formidable et je fais partie de ceux qui ont ce mythe-là et le gardent. Et j'avais failli faire un exposé sur lui au cours d'un cours professionnel.
Moi, vous êtes professeur ?
Pardon ?
Vous êtes professeur ?
Non, j'étais... à la poste.
Ah, très bien, pardon.
Dans
bon, on a bien compris, Lilou, que vous retenez d'abord les bons côtés entre guillemets de Napoléon, le modernisme de Napoléon. Patrice Guénifet, il se voit à quoi encore aujourd'hui? Au-delà du code civil, forcément, mais l'esprit
mais
moderne.
C'est très important, c'est-à-dire qu'il se voit à plusieurs choses. D'abord, Napoléon, c'est celui qui permet de donner un avenir à la Révolution. C'est-à-dire, s'il n'y a pas Napoléon,
Il n'y a pas de suite à la révolution.
La monarchie revient.
Sauf qu'il fera le coup d'État. Le directoire, c'est quand même l'a quand même envoyé en Égypte parce qu'il se méfiait de lui.
Oui, mais le directoire ne marche pas. Le directoire est un fiasco de 4 ans et tout le monde prépare son coup d'État dans son coin. Mmh. C'est lui finalement qui rafle la mise parce qu'il est le plus habile.
Et parce qu'il est le plus habile à repérer la faiblesse chez les autres. Parce qu'effectivement, s'il devient premier consul, c'est parce qu'il a senti la faiblesse
surtout,
du directoire.
Mais surtout, il comprend une chose, c'est que la révolution, même si elle est vaincue politiquement momentanément, la révolution est gagnée. Parce qu'elle a abattu la monarchie, elle a détruit la noblesse. Elle a gagné. Et ce qu'il va faire, c'est en échange du sacrifice de la liberté politique, parce qu'il est convaincu que les Français n'aiment pas la liberté politique. Et la suite lui donnera plutôt raison. Et encore aujourd'hui, on voit bien que ce qui est important, c'est l'égalité des droits. Et même l'égalité des conditions, si ça pouvait être possible. Donc c'est ça qu'il va donner aux Français à travers le Code civil, à travers toutes sortes d'institutions. Donc il va traduire la partie législative de la Révolution dans des institutions, en sacrifiant la liberté politique qui importait assez peu aux gens. Donc c'est ça qui, chez lui, est resté dans notre patrimoine, parce que d'une certaine façon, il avait compris la sensibilité politique de la majorité des Français. Et puis d'autre part, il incarne ce personnage inouï qui ne pouvait naître que de la Révolution française. C'est-à-dire un type qui vient d'Ajaccio, qui est une ville de 4000 habitants à l'époque, et qui va devenir l'empereur des Français. C'est-à-dire le rêve du self-made man, de celui qui crée sa vie. Et ça, c'est le centre de son mythe encore aujourd'hui, par-delà tout le bilan qui effectivement peut être discuté, qui a ses côtés lumineux, mais qui a aussi beaucoup de côtés sombres, ça c'est sûr.
Xavier Mauduit, sur le mythe napoléonien, en regardant la part positive, c'est effectivement l'intuition de cet homme, ce que Patrice Guénifet appelait le « self-made man ».
Oui, c'est bien dit. D'ailleurs, Stendhal disait « Napoléon a redonné le moral à la France », ce qui est le cas. Il faut imaginer quand même que la Révolution interrompt un millénaire de monarchie, de siècles de monarchie absolue, où on devait devenir ce que l'on était à sa naissance. On ne pouvait pas sortir de son carcan de naissance. Napoléon profite de la Révolution et, par ses conquêtes, impose aux autres pays le code civil, la liberté. C'est-à-dire qu'il y a l'espoir, et on le voit à travers les maréchaux, par exemple, qui viennent pour certains de milieux populaires, il y a l'espoir pour chacun d'une ascension sociale possible. Mais c'est merveilleux, ça. Et puis, l'Empire est une période complexe, parce que l'Empire est proclamé le 2 décembre 1804, mais sur les pièces de monnaie, il y a écrit République française, jusqu'en 1806. Et quand on se souvient, alors il y a un hymne impérial, veillons au salut de l'Empire, ce que chantent les soldats est très clair, c'est veillons au salut de l'Empire, mais si le despotisme conspire, conspirons la perte des rois, liberté, liberté, que tout mortel te rende hommage, tremblez tyran. Vous voyez, c'est compliqué l'Empire, c'est compliqué parce que c'est pas simplement une dictature.
Sur l'Empire d'ailleurs, sur sa fascination pour l'Empire, le jeune Napoléon enfant vouait un culte, paraît-il, aux empereurs. Alors, d'Alexandre le Grand, Jules César, Auguste, jusqu'à Charlemagne. D'abord, est-ce que c'est vrai? Et puis, dans quelle mesure ça a influencé l'homme politique, Patrice Guénifet?
Oui, c'est vrai, mais vous savez, tous les collégiens de cette époque ont été instruits à travers la lecture de Plutarque, des grands hommes. Donc, ils ont des rêves d'héroïsme plein la tête, et ça explique une partie de la Révolution. Parce que si tous ces jeunes bourgeois, pour la plupart d'entre eux, promis à des carrières administratives ou militaires ou littéraires ou autres, se jettent à corps perdu dans la Révolution, ils sacrifient leur vie, ils tuent leurs adversaires, c'est aussi parce qu'ils ont cette culture héroïque qui leur vient des collèges religieux où ils ont fait leurs études secondaires. Donc lui aussi a ça. Et simplement, lui va le mettre en pratique au point que, par exemple, Nietzsche dit « Napoléon, c'est le dernier héros de l'histoire universelle. Après, il n'y a plus que des bourgeois. C'est-à-dire, il est celui qui, au moment de l'instauration de la société bourgeoise, c'est un peu le dernier feu de la société ancienne et de l'héroïsme ancien.
Question ce soir jusqu'à 20h sur l'héritage de Napoléon. Soyez les bienvenus, il est 19h34.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Question à présent sur l'héritage politique de Napoléon. En rappelant qu'il y a 3 ans, lors des primaires de la droite, un autre historien, Gilles Richard, avait répertorié 3 droites. Alors, il y avait la droite bonapartiste, celle de Sarkozy, la droite orléaniste libérale, celle de Juppé, et puis la droite du conservatisme légitimiste, celle de Fillon. Que signifie, Xavier Mauduit, droite bonapartiste aujourd'hui?
C'est une bonne analyse à faire, la droite bonapartiste, parce qu'on l'entend souvent, il y a souvent des comparaisons avec nos hommes politiques. Mais il y a quelque chose de complexe, là aussi, avec Napoléon et le bonapartisme. Sous Napoléon Ier, empereur des Français, il n'y a pas de bonapartisme. Oui. Le bonapartisme est
ça
quelque chose qui se développe
après. Ça fait référence aux deux
empereurs
de la famille, Napoléon Ier et Napoléon III.
Exactement. Et là, on touche au point sensible pour la République. Napoléon Ier est un empereur qui règne de 1804 à 1815. Il est renversé et exilé sur une île à l'autre bout du monde.
D'Elbe.
C'est l'île de Sainte-Hélène.
Sainte-Hélène.
C'est vrai, Elbe dans un premier temps et après son retour, après les 100 jours, à Sainte-Hélène, où il meurt. Mais en France, se développe un courant d'idées de ceux qui ont lu le Mémorial de Sainte-Hélène, ce texte que Napoléon a écrit retraçant sa vie, plutôt évidemment à son avantage, disant qu'il voulait libérer les peuples. Ces idées-là se construisent tout doucement dans la France du 19e siècle et créent une forme de droite, une droite qui veut un pouvoir exécutif fort, mais qui est soucieux des plus pauvres. Et celui qui porte ces idées-là est un neveu de l'empereur Napoléon Ier. Il s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte, c'est le futur Napoléon III, qui est qui écrit l'extinction du paupérisme. Vous voyez, on aurait du mal à imaginer ça aujourd'hui, un politique qui écrit l'extinction de la misère, la disparition de la misère. Mais c'était ça, le bonapartisme, un pouvoir fort et un vrai souci qui repose sur les plus pauvres. Ben, ça a eu du succès parce que ce Louis-Napoléon Bonaparte est devenu premier président de la République en France en 1848, puis empereur des Français.
Le bonapartisme, je vous pose la même question, Patrice Gagnifet, c'est effectivement une vision pour les plus démunis et c'est aussi une droite à la fois centralisatrice et autoritaire. C'est ça le bonapartisme.
Le bonapartisme a été tour à tour de gauche et de droite, libéral et conservateur, progressiste et réactionnaire. Moi, je ne crois pas vraiment à l'existence d'une tradition bonapartiste, parce que dans le cas de Napoléon Ier, c'est une expérience unique, non reproductible.
C'est une comète.
C'est une comète, il est là, il joue le rôle que jouaient les podestas dans les cités italiennes. Quand vraiment les gens commençaient à s'entretuer à Florence, on faisait appel à un étranger qu'on allait chercher dans une autre ville italienne et on lui confiait les pleins pouvoirs pour réconcilier par la force les Florentins. Il a joué ce rôle en France. Et d'ailleurs, une fois qu'il a atteint son but, c'est-à-dire mettre fin à la guerre civile, eh bien, après tout, les Français en ont eu assez de lui, en ont eu assez de ces guerres étrangères qui étaient surtout les siennes plus que celles de la France. Et en 1814, il a été renversé.
Le bonapartisme, ça fait référence aux deux empereurs de la famille. Napoléon Ier, on l'a dit, puis Napoléon III. Est-ce que pour autant le bonapartisme induit une vision héréditaire du pouvoir, Xavier Mauduit ?
Oh là là, c'est la question la plus complexe. C'est la question la plus complexe parce que dans l'idéal bonapartiste, il y a hérédité de père en fils. Mais il y a aussi le soutien populaire qui s'exprime par le plébiscite. Le plébiscite, c'est le vote de la population qui dit oui ou non à ce pouvoir-là. Vous imaginez la chose complexe. Alors l'idéal bonapartiste est de dire que celui qui est au pouvoir doit tout faire pour obtenir le suffrage de la population et pour avoir ce suffrage, il doit donner les gages, les garanties ou au moins répondre aux attentes des uns des autres. Mais c'est vrai que c'est compliqué de se dire j'ai besoin du soutien qui s'exprime par un vote, mais en même temps j'ai un pouvoir autoritaire. Mais sous le Second Empire, ça fonctionne pendant 18 ans et ça prend fin en 1870 par une guerre extérieure. C'est-à-dire que le bonapartisme ou le Second Empire ne s'effondre pas par une attaque qui vient de l'intérieur, mais plutôt par une défaite extérieure face à la Prusse.
Question ce soir sur France Inter, sur l'héritage de Napoléon, 01 45 24 7000. On retourne au standard avec une question de Sylvie. Bonjour Sylvie, bonsoir.
Bonsoir,
vous nous appelez de Grenoble, avec plaisir.
En fait, c'est plutôt une remarque, j'ai un peu de mal à souscrire au mythe napoléonien.
Pour quelle raison ?
Parce qu'il a rétabli l'esclavage, qu'il a mis l'Europe à feu et à sang, mais aussi parce qu'il a fait aux femmes. Parce que dans le code civil... Finalement, on institue l'incapacité juridique des femmes, puisqu'un article, l'article 1124, j'ai retrouvé la référence, qui dit « Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux. » Et on sait que, dans cette société qui était déjà patriarcale, la Révolution n'avait pas fait grand-chose pour les femmes, le mari est le souverain de la famille. Voilà, donc
j'ai
un peu de mal avec Napoléon parce que je pense qu'il a marqué aussi le XXe siècle et il a fallu plus d'un siècle pour que les femmes se défassent des conséquences de cet article. Voilà, merci.
Merci à vous Sylvie de cette remarque. Xavier Mauduit, Napoléon a raté, Napoléon qu'on présente comme un homme moderne, a raté l'émancipation des femmes.
Il est un homme de son temps, Napoléon, et il ne se souciait pas tant que ça du droit des femmes, même si le code civil donne une place aux femmes, mais évidemment inférieure au père et au mari. C'est vrai que c'est honteux, hein. Un homme qui trompe sa femme, lui s'en sort assez bien, mais une femme, vraiment, elle est immédiatement répudiée. C'est une horreur comment on traite les femmes à ce moment-là. Ça a été dit dans la question de cette auditrice. Pourtant, les femmes ont mis un siècle de lutte pour obtenir ce dont elles avaient le droit, qui aujourd'hui, et encore, on pourrait même en discuter aujourd'hui, la place qu'elles ont dans la société. Mais pour obtenir un chéquier, c'est pas Napoléon, c'est encore les années 60. Donc vous voyez, d'accord, Napoléon, mais dans tous les griefs qu'on peut faire à cet homme-là, que ce soit pour l'esclavage, que ce soit pour la place de la femme, il ne faut pas focaliser sur un homme, c'est beaucoup trop simple. En fait, c'est une société
aussi.
C'est une époque, c'est une société, et en l'occurrence pour le droit des femmes, ça s'étend largement au-delà du Premier Empire.
Patrice Gagniffet, le droit des femmes, qui n'est pas totalement oublié du code civil pourtant.
Non. Non, et même les...
Même s'il y a effectivement cette remarque de Sylvie qui est...
Oui, non mais bien sûr, votre auditrice
lourde de conséquences.
A raison. Mais en même temps, il faut ce qu'elle reproche à Napoléon, il faut le reprocher à la Révolution française, parce que sous l'Ancien Régime, les femmes avaient un certain nombre de droits, notamment lorsqu'elles étaient veuves, elles pouvaient même voter dans les assemblées. La société d'Ancien Régime était plus favorable aux femmes que ne l'a été la société issue de la Révolution française. Parce que la Révolution française a un idéal tout à fait romain et antique qui concentre le pouvoir chez ceux qui font la guerre. Voilà, donc les femmes n'ont plus leur place dans la cité. Et d'une certaine façon, Napoléon, qui met en loi la Révolution française, continue sur cette lancée. Bon, lui-même était plutôt d'ailleurs favorable aux femmes et avait un comportement avec les femmes qui était plutôt moderne pour son époque. Mais dans une société rurale à 80%, patriarcale, transformée mentalement par la Révolution française qui avait fait des citoyens guerriers, donc les femmes n'y avaient plus leur place, sauf en tant que celles qui donnent la vie à de futurs soldats. Les femmes, forcément, y ont perdu en pouvoir.
Xavier Mauduit, on vient de présenter finalement un homme politique, Napoléon, qui se veut au-dessus des partis, et de droite et de gauche, vous me voyez venir, avec une vision toujours verticale du pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui Emmanuel Macron est un enfant de Napoléon ?
Et la question se pose évidemment à chacun des présidents de la Ve République, parce que la Ve République présente des traits, mais vous savez, je le dis comme ça, mais vous allez trouver dans les bibliothèques plein de livres, De Gaulle et le bonapartisme, vous allez trouver plein d'articles présentant Nicolas Sarkozy en jeune Bonaparte, oui. On le trouve régulièrement. Alors la question se pose aujourd'hui pour Emmanuel Macron, on ne va pas reprocher à Monsieur Macron d'être l'héritier de la Ve République qui elle-même, c'est vrai, a un écho bonapartiste. Mais cet écho-là n'est pas celui du Premier Empire. Le Premier Empire s'arrête en 1815. Et je vais vous dire, pour le centenaire de la naissance de Napoléon Ier, donc on est en 1869, c'est son neveu, Napoléon III, qui est au pouvoir. Il n'y a quasiment pas de fête. Déjà, Napoléon Ier est un homme de l'histoire, est un homme du passé. Comme l'a dit Patrice Gagniffet tout à l'heure, il y a un épisode du Premier Empire qui n'est pas reproductible. Ça tient à un personnage assez particulier, Napoléon Ier, le bonapartisme en revanche, celui qui est au pouvoir sous le Second Empire, de 1852 à 1870, lui fait peur à la République. La preuve, vous avez des statues de Napoléon, vous avez des rues de Napoléon Ier dans nos villes, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même, sur Napoléon III, faut chercher.
Sur l'Empire, oui, pardon, vous alliez rajouter quelque chose, Patrice Gagniffet ?
Non, je pense que la question a du sens. Parce que, au fond, Napoléon, si on laisse de côté le régime, incarne une certaine manière de gouverner. Et précisément d'échapper au clivage droite-gauche qui traverse toute l'histoire française déjà bien avant la Révolution. Et donc, Napoléon annonce de ce point de vue De Gaulle qui se revendiquera d'un pouvoir supérieur à la division droite-gauche. Et effectivement, Macron s'inscrit, au moins par ses déclarations, dans cette filiation et par l'idée de la verticalité du pouvoir.
Sauf que, pardon de vous couper, mais pour De Gaulle, on ne peut pas parler d'opportunisme de droite et de gauche. En revanche, chez Napoléon, c'était par opportunisme réel, non ?
Non, parce que sa tâche historique est de mettre fin à une guerre civile entre la droite et la gauche. Donc de ce point de vue, ce qu'il fait, c'est qu'il réconcilie les Français en éliminant les extrêmes et de droite et de gauche, royaliste intransigeant, républicain intransigeant, et en appelant les autres à le rejoindre ou non en vertu de leurs compétences.
Son truc à lui à Napoléon, c'est quand même l'Empire, avec notamment des tentations césaristes de Napoléon.
C'est la monarchie.
Oui, mais
parce
ça semble faire écho.
À l'époque, la monarchie, pour la majorité des Français, c'est le régime normal. Et tout le monde avait ce sentiment, beaucoup de gens, que la République, c'était une parenthèse. Et qu'un jour ou l'autre, le roi reviendrait. Parce que le roi, c'était 1000 ans d'histoire. C'est difficile de rompre avec 1000 ans d'histoire.
Non, mais on retrouve à chaque fois chez Napoléon, chez De Gaulle, ou peut-être chez Macron aujourd'hui, ou d'autres présidents de la Ve, ce fantasme du sauveur, c'est resté ça de chez Napoléon ?
Ça nous vient de Jeanne d'Arc. Ça commence avec elle. C'est une vieille tentation française. Louis XIV, après la Fronde, joue un peu ce rôle-là. Et c'est resté dans la politique française. Chaque candidat à la présidentielle sous la Ve République, se présente comme un sauveur. C'est-à-dire comme celui qui a les solutions toutes faites et toutes prêtes.
01 45 24 7000, on questionne ce soir l'héritage de Napoléon avec une question de Alice. Bonsoir Alice.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Savoie, quelle est votre question ?
Oui, en fait c'est un témoignage que je voudrais apporter sur la façon dont est perçu Napoléon en France. Et donc il est perçu aussi à l'étranger parce que j'ai fait toute ma scolarité dans un collège et lycée international, en section allemande. Et donc j'avais des cours d'histoire géo en allemand. Et notre professeur nous avait parlé de cette espèce de culte que vouaient les Français à Napoléon et de à quel point c'était bizarre pour les Allemands. Elle était même allée jusqu'à nous dire que c'était comme si en Allemagne on vénérait encore Hitler. Ça nous avait beaucoup choqués, mais en fait, je me souviens que c'est la première fois que je me suis rendu compte qu'un fait historique pouvait avoir plusieurs lectures et que peut-être ce qu'on avait appris en cours d'histoire en français n'était pas l'absolue vérité de tous les points de vue possibles.
C'est la question « d'où parles-tu » qui effectivement change l'angle et les points de vue. Merci de cette remarque, de ce commentaire, Alice. Napoléon qui a façonné l'Europe, est-ce qu'il fascine encore aujourd'hui chez nos voisins européens, Xavier Mauduit ?
Oui, Napoléon fascine encore aujourd'hui. En Russie, on le voit, dès qu'il y a des manifestations autour du thème impérial, tout de suite se regroupent énormément de gens, les reconstitueurs notamment, ceux qui reconstituent les batailles. Et puis, Napoléon fait partie de ces personnages connus dans le monde entier, connus par sa silhouette, la représentation de Napoléon, vous savez, avec le bicorne, la redingote, la main dans le gilet, tout ça, on le reconnaît facilement. Et puis
Une parenthèse sur la main dans le gilet, c'est effectivement parce qu'il est mort d'un cancer de l'estomac ?
Ah, il y a de grandes discussions là-dessus, ouais, mais celle que je préfère le plus, c'est que c'est une mode. C'est une mode. Ouais. On mettait la main dans le gilet. Il y a plein de tableaux, vous allez voir, ils sont tous la main dans le gilet.
Et pardon, bon, je vous ai interrompu sur votre démonstration européenne jusqu'à la Russie.
Voilà, le nom de Napoléon est connu, mais vous savez, vous allez trouver des textes au 19e siècle de Victor Hugo qui dit « C'est incroyable, au Japon ou en Chine, on trouve dans les hôtels religieux des bustes de Napoléon qui est considéré comme un dieu. » Donc, c'est quelque chose qui dépasse en fait la simple analyse. Un mythe ou un phénomène qui devient international, ben c'est le cas avec Napoléon. Il est drôlement intéressant à étudier parce qu'il parle à tous, mais d'une manière très simple. Napoléon est un homme issu du peuple tel qu'il se présente, il est issu de la petite noblesse corse, et qui devient à 30 ans empereur. Un peu plus de 30 ans, ben enfin bon, vous voyez, ça fait rêver. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui ne manque pas d'ambition, mais qui freine beaucoup l'espoir d'ambition de nombreuses personnes. Et à ce moment-là, ben, il y avait énormément de possibles. C'est ça qui fascine plus que tout.
Xavier Mauduit, vous parliez des légendes de Napoléon. Il y en a une qui est persistante, notamment celle qui laisse entendre qu'il ne serait pas né à Ajaccio, mais en Bretagne, car sa mère, Laetitia, aurait eu un amant aristocrate breton, Louis-Charles René de Marbeuf. Bœuf. Ça vaut quoi cette théorie, Patrice Ganiffet, pour commencer ?
Oh bah écoutez, qu'elle ait eu pour amant le gouverneur français continental de la Corse, Marbeuf, ça c'est absolument prouvé et incontestable. Et il est probable que Louis Bonaparte, le frère cadet, était le fils de Marbeuf. Et vous savez, Napoléon lui-même s'est interrogé très longtemps pour savoir s'il était le fils de son père ou le fils de Marbeuf.
Oui, il y avait deux ans d'écart et il s'est interrogé sur deux années de sa naissance qui était un peu flottante.
Il dira à l'un de ses proches, Monge, le mathématicien, il dira, vous savez, j'ai fait et refait les calculs pour savoir si le gouverneur était en Corse au moment de ma conception. Et finalement, j'ai dû me rendre à l'évidence, je suis le fils de mon père et pas le fils du gouverneur. Et là, il dit à Monge, mais alors dans ce cas-là, d'où me viennent mes talents ?
Xavier Mauduit, le prénom même de Napoléon signifierait Napoléon, autrement dit né à Saint-Paul-de-Léon, la commune du Finistère. Qu'en retient l'historien que vous êtes ?
Alors, effectivement, non, ça ne marche pas et ça ne colle pas, mais ça fait partie du mythe. C'est-à-dire que la légende ne doit pas être écartée, elle doit être analysée comme étant quelque chose de faux. Mais c'est ça aussi Napoléon. C'est-à-dire que de sa naissance à sa mort, est-il vraiment enterré aux Invalides ? A-t-il été empoisonné ? Napoléon alimente, alors ceux qui adorent les complots, mais il n'y a pas que ça. Ça alimente le fantasme. Dans le goût de l'histoire, il y a aussi cet aspect-là. C'est-à-dire que l'historien est là pour dire non mais ça, c'est complètement faux et ça, c'est peut être vrai. Mmh. Et chez Napoléon, il y a du boulot autour de ça. Bon, il n'est pas né en Bretagne, il est né en Corse, il y a 250 ans.
Bien, c'est le point de vue de l'historien qui appuie et qui met un point final à la rumeur. 01 45 24 7000. Aurélien est en ligne. Bonsoir Aurélien.
Oui, bonsoir.
Une remarque, une question.
Écoutez, en fait, moi, c'était plus pour réagir tout à l'heure à la notion de bonapartisme. Et en fait, je voulais vous poser cette question. C'est à propos, le bonapartisme, pour reprendre un peu ce que Marx écrit dans le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, en fait, explique que ce serait une synthèse, en fait, entre l'orléanisme et le légitimisme, et que ce serait finalement une sorte de point d'accord, de point de synthèse entre, les deux bourgeoisies, quoi, qui vont assurer, quelque part, la domination d'une classe sur le reste de la société et fonder, en quelque sorte, la domination, le 19e siècle français, quoi.
Alors, on va poser la question aux historiens. Bonaparte, bien avant François Hollande à gauche, l'homme de la synthèse entre les droites orléanistes, bonapartistes et conservatisme légitimiste, c'est un peu aussi votre point de vue, Patrice Guénifet?
Non, pas tout à fait. Parce que, d'abord, pour une raison de simple chronologie, c'est que Napoléon vient avant l'orléanisme. L'orléaniste viendra avec Louis-Philippe, donc après la disparition de Napoléon. Le légitimisme se constitue à la fois en réaction à la Révolution et en réaction à Napoléon. Donc il n'est pas la synthèse. Il est d'une certaine façon la synthèse parce que tout en assurant le triomphe du tiers-État, en termes marxistes, on dirait de la bourgeoisie, sur la noblesse, il récupère des éléments d'Ancien Régime, des éléments culturels, l'idée qu'il faut des distinctions sociales, l'idée qu'une société est impossible sans une religion, qui ne soit pas une religion d'État, mais une religion protégée par l'État, etc., etc. Mais dans ce sens, c'est difficile de les comparer. En plus, le principe du légitimisme, c'est la fidélité à l'Ancien Régime. Donc aux distinctions de naissance, aux privilèges, à l'organisation corporative de la société. Il a rompu avec tout ça. L'orléanisme est fondé sur le culte de l'argent, sur le culte de la paix aussi. L'orléanisme a été un régime pacifique, hors la conquête de l'Algérie. Et Napoléon, au contraire, exalte des vertus qui ne sont pas des vertus bourgeoises, qui sont des vertus guerrières, des vertus héroïques et des vertus anciennes. Donc c'est difficile de le voir comme une sorte de synthèse de ces deux droites qui lui succéderont.
Alors, pas mal de questions encore sur l'aspect belliqueux de Napoléon. C'est ce qui ressort le plus des messages que l'on reçoit depuis la fin de l'après-midi. 12 années de victoire chez Napoléon à partir de 1800. Marengo, bien sûr, Austerlitz, Siena, Wagram, jusqu'à entrer à Moscou, dans Moscou en 1812. Xavier Mauduit, est-ce que Napoléon s'est cru invincible jusqu'en 1812 en tout cas? Parce qu'ensuite, il va le payer cher, ce sera la Bérézina. Hein.
Ah oui, ce sera vraiment la Bérézina. Non, il s'est pas cru invincible. Il est entré dans un système qui l'a dépassé lui-même. Comprenez la logique. La France est en guerre depuis très longtemps, avant la Révolution, pendant la Révolution, avec l'Angleterre. Napoléon hérite de ces guerres-là. Il regarde comment faire, il essaye de faire un débarquement en partant de Boulogne. Ça ne marche pas, c'est trop compliqué. Alors, il veut asphyxier l'Angleterre, c'est le blocus continental. Plus aucune marchandise anglaise peut venir, il n'y a plus d'échange, c'est un blocus. Pour cela, il doit avoir l'accord de tout le monde en Europe. Sauf que dès qu'il y en a un qui n'accepte pas, il y va. Et il y va. Et c'est ça, c'est cet engrenage terrible. C'est l'idée du blocus qui est en fait inapplicable. Mais au Portugal, il continue à commercer. Napoléon traverse l'Espagne et va au Portugal. Et c'est pareil pour tous les pays. La Hollande, la contrebande, il faut bien maintenir la Hollande. Et jusqu'en Russie. Vous voyez, il y a cet engrenage-là. Donc, il ne s'est pas cru invincible. Peut-être un peu, il croyait à sa bonne étoile. Mais en tout cas, il a longtemps gagné. Mais surtout, il était dans son esprit obligé de le faire. Sinon, tout ce qu'il avait construit ne pouvait pas fonctionner.
Patrice Guénifet, je vous vois un peu tordu du nez, quand même.
Oui. Non, moi je pense qu'il est, vous savez, il est comme le joueur qui va miser sur le rouge 10 fois de suite et qui 10 fois de suite va gagner. Ben, il pensera que la 11e, le rouge va sortir encore une fois. Et chez Napoléon, il y a du joueur. Et quand vous ne perdez pas une bataille pendant 12 ans, fatalement, vous pensez que vous devenez invincible. Et c'est ce qui s'est passé dans son cas, parce que s'il conçoit le blocus continental, qui est une folie d'un point de vue militaire et stratégique, c'est précisément parce qu'il pense que tout lui est possible. et qu'il ne peut pas être vaincu. Donc il y a de la démesure et de l'hubris aussi chez lui.
Alors quand on parle du mythe napoléonien, paradoxalement, il n'y a pratiquement pas de rue ou de boulevard à son nom. Alors des rues et des boulevards de ses généraux ou de ses victoires, oui, mais pas à son nom. Pour quelle raison, selon vous, Xavier Mauduit ? Parce que l'esclavage ?
L'esclavage en partie, mais pas seulement. C'est-à-dire que la République a du mal à admettre un homme qui a pris le pouvoir par un coup d'État et qui, et ça a été dit sans cesse, a fait un régime qui est basé sur la guerre. Le nom de Bonaparte pose un problème dans la division politique de la France. Aujourd'hui, tout le monde est républicain, d'accord, mais pendant très longtemps, tout le 19e siècle, il y avait des royalistes, des républicains et des bonapartistes. Ça se voyait lors des élections législatives, on se présentait comme candidat bonapartiste au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et encore aujourd'hui, il y en a des restes. Donc vous voyez, c'était difficile politiquement de soutenir dans les rues, par les noms donnés aux places ou aux différentes rues, un homme qui est l'ennemi de la République.
Enfin, cela dit, on retiendra tout de même la route Napoléon entre Cannes et Grenoble, cette route qu'il a empruntée quand il s'est enfui de l'île d'Elbe en 1815 et quand il a cru à son retour au pouvoir. Ça aurait été possible un temps parce qu'après, forcément, il y aurait eu Waterloo et ça n'a pas duré longtemps. 01 45 24 7000. Denis nous appelle. Bonsoir, Denis.
Oui, bonsoir. Moi, c'est une question. Il paraît que les concierges auraient été mis en place par Napoléon pour écouter les conversations dans les immeubles et donc rapporter ces conversations à la police. Il paraît que l'expression « les murs ont des oreilles » viendrait de là.
Ah, les murs ont des oreilles.
Si c'est vrai ou pas, mais je ne serais pas étonné qu'il ait mis en place les concierges, étant donné que la population devait être surveillée pour Napoléon.
Alors, les murs ont des oreilles pour des auditeurs de France Inter qui ont quelque chose entre les oreilles. Xavier Mauduit, rumeur, fake news, on dirait aujourd'hui, c'est cette théorie de complot sur les concierges ?
Alors peut-être rumeur, mais en tout cas il y a sans doute un fond de vrai parce que Napoléon réorganise la police. La police est quand même assez mal en point, elle est assez organisée au sommet. À la base, c'est encore un peu balbutiant. Vous savez, c'est la période de Vidocq. Vidocq commence sa carrière de policier sous Napoléon et il faut des mouchards. C'est un monde de mouchards qui fait fonctionner la police. Et quoi de mieux qu'un concierge pour savoir qui rentre, à quelle heure, qui fait quoi et qui reçoit qui.
Vidocq, j'en profite pour rappeler votre livre sur Vidocq, Xavier Mauduit. Autre question des auditeurs sur la religion. Napoléon était-il un religieux, Patrice Guénifet ?
Non, pas du tout. Le plus probable, c'est qu'il ne croit pas en Dieu. Il a de la nostalgie pour le son des cloches en Corse quand il était enfant. Mais il ne croit pas, simplement il est convaincu de la nécessité sociale de la religion. Une société sans religion est une société immorale. Et la religion, en plus, est un peu une sorte d'équivalent de la gendarmerie, parce qu'elle agit sur les consciences, c'est-à-dire là où les gendarmes ne peuvent pas intervenir. Donc il a une conception purement instrumentale de la religion.
Vous avez le même point de vue, Xavier Mauduit, la religion et Napoléon, deux mondes bien séparés ?
Oui, deux mondes bien séparés, avec sa rivalité avec le pape Pie VII qui a fait rire quand même des générations d'écoliers, le pape Pie VII. Mais quand on lit dans le mémorial de Sainte-Hélène, ce que Napoléon a dicté lors de son exil à Sainte-Hélène, qu'il a imaginé lors de la campagne d'Égypte se convertir à l'islam, tout ça est intéressant, ça montre sa curiosité des autres, de l'autre. Et Napoléon, à la différence de beaucoup, et ça a été évoqué tout à l'heure avec la comparaison classique Napoléon-Hitler, Napoléon n'est pas du tout raciste. Et ça, c'est intéressant aussi, sa capacité d'intégrer l'ensemble de ceux qui veulent contribuer au bien public.
Voilà, parole de deux historiens ce soir. Merci beaucoup Patrice Guénifet.
Merci.
Merci Xavier Mauduit et merci aux équipes de France Bleu Touraine. Merci aussi à l'équipe du Téléphone Sonne. À la réalisation, il y avait Céline Illa. À la technique ce soir, Loïc Frapsos et Gilles Gaillard. Merci pour la préparation à Pierre de Certaines, Emma Ferré et Mathilde Sour. Les quatre tops sur France Inter. À demain.